Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle François Allais et depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. Bienvenue dans ce 68e épisode, j'espère que vous allez bien. Ce nouveau podcast fait partie d'une série en collaboration avec Plug & Start et la Technopole de l'Aube. Plug & Start, c'est l'un des meilleurs programmes de création d'entreprises innovantes en France. Cette année, c'est une édition spéciale puisque l'événement fête ses 20 ans d'existence. Créé en 2002 et basé à Troyes, dans le Grand Est, le programme est orienté vers un objectif précis, la réussite des porteurs de projets qu'il croise sur son chemin. Candidater à Plug & Start, c'est avoir l'opportunité, si vous êtes sélectionné, de participer à 3 journées intenses pour tester votre projet et s'approprier les clés de l'entrepreneuriat. Leur concept unique propose un condensé de rencontres multicompétences, la possibilité d'échanger et de tirer parti au maximum de conseils d'experts, de mentors et de grands comptes à la tête d'entreprises françaises et internationales de renommée. Aujourd'hui, partez à la rencontre de Thierry Gahamani, le fondateur et CEO de Magma Energy, la première centrale d'achat dédiée aux producteurs d'énergie renouvelable. Il a participé à Plug & Start en 2019 et l'événement a grandement contribué au lancement de son business. Dans cet épisode, il me raconte pourquoi a-t-il participé à Plug & Start en 2019, qu'est-ce que ce programme lui a apporté d'un point de vue professionnel et humain, quel a été son moment fort de l'événement, son parcours avant d'entreprendre et ce qui l'a amené à créer Magma Energy, le concept de Magma Energy, la première centrale d'achat dédiée aux producteurs d'énergie renouvelable, comment a-t-il fait pour créer cette marketplace de l'idée à aujourd'hui. Avant de vous laisser avec notre échange, sachez que l'épisode est également disponible intégralement en vidéo sur la chaîne YouTube de Serial Entrepreneur. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, de partager l'épisode à votre réseau et de nous rejoindre sur Instagram et TikTok. Excellente écoute, prenez soin de vous et à jeudi pour le dernier épisode de cette série. Bonjour Thierry, comment tu vas ?
Oui, bonjour. Bah oui, ça va bien et toi ?
Très bien, je suis content de t'avoir dans le podcast. Aujourd'hui, on se retrouve dans une série de podcasts en partenariat avec l'événement Plug & Start et la Technopole de l'Aube. Plug & Start, on aura l'occasion d'en parler dans cet épisode et d'avoir ton retour d'expérience sur une édition auquel tu as participé. C'est l'un des meilleurs programmes de création d'entreprises innovantes avec plus de 400 entrepreneurs accompagnés. C'est 72 heures pour tester et challenger son projet innovant. Et puis cette année, c'est une édition spéciale puisque Plug & Start fête ses 20 ans. Toi, tu as participé à Plug & Start en 2019.
Oui, tout à fait.
Pourquoi tu as participé à Plug & Start ?
Au fait, au départ, je ne connaissais pas Plug & Start, je ne connaissais pas le programme. C'est au travers des discussions d'un ami qui est déjà sur place qui m'a dit tu peux regarder à Troyes, il y a quelque chose qui se fait avec intéressant. Quelque chose d'intéressant. Donc, du coup, j'ai soumis mon projet. Même à l'époque, j'étais encore salarié, j'étais pas encore sorti, j'avais pas encore pris la décision de franchir justement le pas. Et grâce à Plug & Start, ça m'a permis effectivement d'avancer sur le projet. On aura l'occasion d'en parler encore un peu plus. Ouais.
Carrément. Est-ce que tu peux me décrire Plug & Start ?
Plug & Start,
qu'est-ce qui se passe sur ces 3 jours ?
Ah ouais, vous êtes secoué dans tous les sens. Ouais, voilà, exactement. Je dis aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs, parce que l'idée aussi, c'est d'arriver à Plug & Start avec une idée qui n'est pas encore mature, en fait. Faut pas attendre que l'idée soit trop mature pour dire je vais à Plug & Start. C'est venir déjà quand on a une idée qui tient la route, dire je vais essayer de sortir de mon garage pour aller confronter cette idée à une population donnée. une population qui ne me connaît pas, qui n'est pas de ma famille, donc qui, il n'y a pas de pitié, mais c'est plus, c'est quand même bienveillant, mais qui va challenger vraiment cette idée. C'est ça que j'ai, c'est ça que j'aime bien. Donc vous êtes secoué pendant deux jours, secoué dans tous les sens, votre idée est torturée dans tous les sens, aussi bien avec les gens, des experts de marketing, de web, de finance, de fiscalité, de propriété intellectuelle, justement pour dire, bah tiens, est-ce que je me suis vraiment posé toutes ces questions? Et ça, c'est vraiment important dans la vie d'entrepreneur, même avant, effectivement, qu'on franchisse le pas, pour dire, bah tiens, bah, il faudrait que quand je vais franchir le pas, il faudrait que j'aurai peut-être pas les réponses à toutes ces solutions, mais il faudrait que je les ai en tête. Qu'il y aura toutes ces questions qui s'opposeront à moi.
Ça va permettre de récolter pas mal de réponses sur toutes les problématiques de l'entrepreneur, finalement.
Oui, exactement. Et ce que j'ai aimé aussi par rapport à la ville de Troyes, au fait, c'est que par rapport, ben, je suis de la région parisienne de base, mais c'est par rapport à une grande ville, effectivement, c'est que tout le monde, tout le monde se connaît. On a accès à des personnalités qui sont dans tous les domaines de compétences assez facilement par rapport à une grande ville.
Et puis 3, c'est à 1h30 de Paris, en train.
Ah oui, exactement.
Donc c'est quand même pas mal.
Oui, 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 ça aussi, c'est un avantage à considérer. Considérer quand on vient d'autres régions, on est à 1h, c'est 1h26 exactement.
Ouais.
Je l'ai fait régulièrement, je continue aussi à le faire régulièrement.
Oui, ça se fait bien.
Ça se fait bien, en plus c'est dans les trains où on a le confort nécessaire. En gros, pour moi, c'est un deuxième bureau. Bah, j'en ai plein des bureaux, mais ça fait partie d'un de mes bureaux.
Exactement.
Ouais.
Qu'est-ce que ça t'a apporté professionnellement et humainement parlant, Plug & Start ?
Sur l'aspect humain, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs qui étaient au même niveau que moi de réflexion, en se posant la question, bah tiens, j'ai mon idée, bah ça n'a rien à voir avec l'idée que moi je développais de base, mais derrière quand même on se rend compte, peu importe ce qu'on va entreprendre derrière, on a quand même les mêmes problématiques. Les problématiques qui sont liées, effectivement, est-ce que le business model, il tient la route? Est-ce que le marché, il est disponible? Est-ce que je dispose des capitaux nécessaires? Est-ce que je dispose des compétences nécessaires pour le faire? Ça, c'est des questions qu'on vend des choux, qu'on vend des carottes, qu'on vend des avions ou ou autre chose. Effectivement, on va toujours se poser des questions et pouvoir échanger avec d'autres confrères qui ont ces mêmes problématiques, ça nous permet ça permet de s'enrichir. D'abord dire, bah tiens, il y a l'autre, là, il est dans le web. Il n'y a pas d'aspect web dans mon projet, mais il m'a parlé d'un truc intéressant. Est-ce que je ne peux pas l'utiliser aussi pour enrichir le mien? Ou bien pour faire germer un autre axe de développement que j'avais pas identifié. Et humainement aussi, c'est que, effectivement, bah, il y a l'aspect humain qui joue beaucoup, parce que j'ai tout à l'heure parlé de la partie bienveillance. Pendant Plug & Start, ils ne sont pas là pour vous casser, quoi. Ils sont pas là pour vous casser, ils sont là pour vous faire évoluer, justement pour que vous puissiez passer, on dit en général qu'on gagne 3 mois de développement, passer à l'étape supérieure pour dire, bah tiens, bah, ils m'ont challengé dans tous les sens, c'était justifié, oui, certainement, et voilà, je sors effectivement grandi avec d'autres idées, puis prêt à y aller, quoi.
Ok, quel a été ton moment le plus fort sur Plug & Start ?
Le moment le plus fort dans Plug & Start, c'était justement la partie des échanges avec les confrères. Les échanges avec les confrères, d'autres confrères entrepreneurs. Il y en a pour lesquels j'ai gardé encore beaucoup de liens d'amitié, d'ailleurs, depuis. Donc, c'est ces échanges, ça m'a permis d'évoluer. Je suis sûr que ça va encore me permettre d'évoluer. Ça, c'était un moment important. Et puis, il y a d'autres moments aussi, parce que ça reste fun aussi, hein, j'allais dire. Voilà, d'autres moments fun, effectivement, que ce soit effectivement des sorties de networking, ce genre de choses. Ça, c'est toujours intéressant de le faire. En plus, ce qui est bien, c'est que même une fois que vous faites Plug & Start, si jamais vous décidez de vous établir sur 3 ou aux alentours, en fait, les gens, ils vont vous identifier assez facilement. Bah, vous allez voir le banquier, vous allez voir votre banquier, vous allez demander des subventions, on va dire, bah tiens, bah, c'est pas vous, je vous ai vu pitcher il y a un an là, sur Plug & Start. Donc, ça ouvre déjà pas mal de barrières, ça, c'est un plus, quoi. Et c'est un plus que, j'allais dire, que vous allez garder tout le long de votre parcours parcours d'entrepreneuriat là-bas sur la région.
Oui, puisque Plug & Start, c'est à 3, mais c'est une visibilité qui est nationale.
Exactement,
c'est important de le rappeler.
C'est ça qu'il faut se le rappeler. Même la plupart des gens, les boîtes qui étaient là, c'était des boîtes de 3, c'était peut-être un dixième, même pas, quoi. Tout, c'est les gens qui venaient d'à gauche et d'à droite et qui disaient, bah tiens, moi j'ai tel projet innovant, tel projet qui est innovant. Ah bah vous êtes des bienvenus, vous pouvez venir.
Aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de cet événement?
Ce que je retiens de cet événement, ça va être l'excellence et la bienveillance. Excellence parce qu'on veut tirer toutes les boîtes vers le haut. On veut vraiment essorer pour dire, bah tiens, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Et aussi, mettre dans la tête des entrepreneurs, effectivement, pour dire tout n'est pas rose à chaque fois, quoi. Il y a des hauts et des bas, il y a des hauts et des bas, et puis il y a tous ces éléments qu'il va falloir que vous preniez en compte avant de vous lancer. Donc ça, c'est sur la partie excellence, et puis la partie bienveillance, c'est important, parce que les gens qui sont autour de vous, des coachs qui sont autour de vous, c'est des grands comptes, c'est des gens issus de plusieurs milieux, mais qui sont là pour vous faire avancer, quoi. C'est ça qui est bien, bah, c'est cette bienveillance qu'on a besoin à chaque fois.
Et est-ce que tu conseilles Plug & Start à des porteurs de projets qui veulent se lancer ?
Tout à fait. Pour dire... Au fait, il ne faut pas se donner des limites, des barrières soi-même en disant « mon idée n'est pas assez mature pour le faire ». J'allais dire, il y en a d'autres qui vont juger de toute façon si votre idée est assez mature pour le faire. Mais vous, si vous vous sentez vraiment à l'aise avec votre idée, c'est l'occasion de vraiment de sortir pour dire bah, « tiens, je vais confronter mon idée vis-à-vis des gens qui ne sont pas de ma famille, qui ne sont pas là pour me dire « c'est bien parce qu'on ne veut pas te blesser », mais qui vont me dire la viabilité de mon projet ». Parce que ça va être un projet qui va conditionner mon avenir de toute façon, qui va me permettre de vivre, de payer mon loyer tous les jours. Donc c'est ça, il faut oser se lancer. Il faut oser se lancer et puis pouvoir accélérer aussi. Parce que ce soit vous faites effectivement plug and start, effectivement vous gagnez 3-4 mois de développement parce que vous avez été coaché avec pas mal d'éléments, pas mal d'input, pas mal de challenges et puis pas mal de... Et puis un réseau important. Soit effectivement, vous pouvez rester aussi dans votre garage en disant bah, « tiens, je garde mon idée », sauf que c'est un temps perdu. Et quand on se lance, effectivement, bah, quand on est en train de créer une entreprise, j'allais dire, chaque jour compte.
C'est le programme parfait pour tester et challenger son idée, finalement.
Exactement. Et même à la fin, j'allais dire, à la fin, vous allez pouvoir dire « ok, bah, là, j'y vais directement ou je préfère attendre ». Par exemple, si je veux partager mon expérience, donc ce que je disais, c'est que quand j'avais participé à Plug & Start, c'était en 2019, c'était au mois de juin ou voire au mois de mai, j'étais encore dans l'entreprise. C'est avec Plug & Start, avec le bagage que j'ai acquis, que je me suis dit, là, franchement Thierry, là, t'es prêt vraiment à passer de l'autre côté. À passer de l'autre côté, bah, j'ai donné ma rupture conventionnelle, bah, voilà, bah, et puis je me suis lancé. Mais à mon avis, si je l'avais pas fait, peut-être j'allais peut-être attendre peut-être 6 mois encore, ou bien voir avoir encore plusieurs doutes, moments de doute. C'était vraiment un déclencheur. Je remercie d'ailleurs effectivement le pote Greg qui me l'a conseillé en disant bah tiens, ton idée est bonne, ce serait bien de pouvoir venir le challenger.
Ouais.
Surtout quand c'est une idée qui sort de l'ordinaire.
Avant de parler de ton parcours, on va apporter quelques précisions sur l'événement. Donc déjà, il faut savoir que c'est 20 projets innovants qui vont être sélectionnés. Donc c'est pas on candidate et le projet est sélectionné directement. C'est vraiment, il y a toute une sélection derrière. Ensuite, tout le transport, l'hébergement et la logistique sont inclus sur les 3 jours de l'événement. Et donc cette édition, elle a lieu du 29 juin au 1er juillet. Et les candidatures, c'est jusqu'au 20 mai pour candidater. Donc voilà, n'hésitez pas à candidater justement pour participer à cette édition anniversaire.
Oui, tout à fait.
On va pouvoir passer à ton parcours. Et la question que je pose à chaque fois, c'est qu'est-ce que tu as fait avant d'entreprendre ?
Qu'est-ce que j'en... J'ai un parcours un peu atypique. Bah, je suis ingénieur informaticien de formation, puis après j'ai basculé dans la partie achat et puis je me suis spécialisé dans toute la partie énergie renouvelable. Dans un grand groupe, effectivement, c'était chez Engie, voire chez GRDF, où on était j'étais en charge effectivement d'accompagner des producteurs des énergies renouvelables à justement développer leurs unités de production et puis à pouvoir mettre à disposition l'énergie pour le reste du réseau.
Et donc tu crées ta société Magma Energy en mars 2020.
Voilà, exactement.
Qu'est-ce qui t'a amené du coup à créer Magma Energy ? Comment tout ça s'est né en fait ?
Donc j'étais bien en tant que effectivement responsable achat, j'avais plutôt un bel avenir, hein, je me le cache pas, au sein d'un grand groupe. Après je me disais que je voulais faire vraiment quelque chose. Je voulais entreprendre. J'ai repris les études, Justement, j'ai repris les études côté HEC. Et puis, j'ai mûri encore mon idée. Un des déclencheurs que j'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment un plug and start. Qui m'a permis de me dire, bah, tiens, là, tu es mature. Là, tu peux y aller. Et c'est donc... j'arrête effectivement de travailler en tant que salarié le 31 décembre 2019. Et puis, j'ai fondé Magma en début 2020. Alors, entre-temps, effectivement, qu'est-ce qui s'était passé ? Donc, j'avais donc soumis la candidature à la partie incubation. Parce qu'il y a ça aussi, la partie plug and start. Une fois que vous avez été donc, déjà shortlisté en tant que 20 projets, en général, il y a 400 candidatures qui arrivent. Donc, c'est vraiment un honneur. Et derrière aussi, vous pouvez aussi postuler pour être incubé à la Technopole de l'Aube. Donc c'est ce que j'ai fait. Et, j'ai passé donc les comités, tous les assessments fin d'année 2019 pour m'installer effectivement début 2020.
Ok. Et est-ce que tu veux me parler du coup de Magma Energy ? Qu'est-ce que c'est ?
Donc début 2020, qu'est-ce que je fais ? L'idée c'était de créer la première centrale d'achat dédiée aux producteurs des énergies renouvelables. Vous savez qu'on a démarré du coup début 2020, pas de bol, on était à la maison pendant un certain temps, comme tout le monde. Voilà, il y a eu la crise qui nous a frappé, mais après derrière aussi qui a ouvert aussi d'autres opportunités, parce que je me dis qu'à chaque fois, derrière chaque crise, effectivement, il y a des opportunités derrière qui vont se créer. Ça, c'est important pour tout entrepreneur qui va nous écouter aujourd'hui. Magma Energy, c'était quoi ? Donc, c'était la première centrale d'achat dédiée aux producteurs des énergies renouvelables. Je me suis rendu compte qu'il y a pas mal donc des producteurs des énergies renouvelables qui viennent la plupart du temps du monde agricole, qui ont des soucis, effectivement, qui ont du mal à se faire accompagner pour y aller. Nous, on s'est spécialisé dans la partie biogaz. Biogaz, donc en deux, trois mouvements, c'est vous prenez tous les déchets agricoles, vous les mettez sous cloche. 40 jours, 40 degrés, ça vous produit du gaz. Le gaz, vous pouvez soit l'utiliser en tant que gaz de ville, donc dans les tuyaux, le nettoyer. Vous pouvez l'utiliser soit en tant que carburant, vous pouvez l'utiliser ou bien produire de l'électricité. Et en plus, ce qui est très bien avec cette énergie, c'est que non seulement vous produisez une énergie propre, renouvelable, qui est produite localement, mais aussi ce qui va rester, donc il y a la matière qui va rester, qui peut servir aussi en termes d'engrais. Donc actuellement, dans le contexte actuel d'autonomie énergétique, avec tout ce qui se passe de l'autre côté dans les pays de l'Est, on sait à quel point l'autonomie d'énergie a beaucoup de valeur. Donc du coup, on s'est dit, je me suis dit, comment on peut accélérer cette transition énergétique, effectivement. Nous, on s'est dit, c'est en aidant ceux qui veulent le faire, en regroupant leurs besoins, en les aidant à optimiser leurs installations de A à Z depuis la création des installations, jusqu'à l'exploitation de ces installations.
C'est une marketplace, donc on peut s'y inscrire en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur. Quelle typologie de produits on peut retrouver sur cette marketplace ?
Donc sur la Magma Energy, donc magmaenergy.fr, il y a pas mal d'éléments, c'est tout type d'éléments, des technologies, d'équipements ou de consommables que peut avoir besoin un installateur, un exploitant d'unité de méthanisation. Ça peut aller effectivement des pompes, des broyeurs, des trémies, ce genre de choses. Ça peut aller de l'huile, ça peut aller jusqu'au service de maintenance, jusqu'au service de transport, voire les solutions de production d'autres d'énergie renouvelable ou bien du GNV. Donc il y a tous ces éléments-là. En gros, ce qu'on propose au-delà d'une marketplace, en fait, on crée mini-service achat à ces exploitants. Et mini-service achat digitalisé. Parce qu'au départ, le concept aussi, quand je l'avais démarré, en fait, le digital n'était pas encore entré dedans. Justement, c'est aussi l'appétit vient en mangeant, comme dirait l'autre. Effectivement, c'est quand on est un entrepreneur aussi, il faut avoir justement cette agilité de pouvoir s'adapter au marché. Au départ, quand je me suis lancé, on le faisait à la main. Quelqu'un qui allait, vous avez une installation qui tourne déjà, donc je viens chez vous, vous me dites, j'ai besoin de ça. Je vais aller dans l'exploitation d'à côté, il va me dire, j'ai besoin de ça. L'idée était de regrouper tous ces besoins pour faire des deals, un peu ce qu'on faisait par exemple sur le Groupon, des deals intéressants pour dire, cher marché fournisseur, on a 50 installations qui ont besoin de ça, qu'est-ce que vous pouvez nous faire comme élément ? Donc c'est ça qu'on faisait au départ, mais on le faisait avec les fichiers Excel, ce genre de choses. Mais après aussi en mûrissant, on s'est dit, là on est en train de le faire avec les fichiers Excel, on avait du mal. Pour répondre à un besoin donné, c'était pas moins de 2 semaines. On a dit, bah tiens, qu'est-ce que le digital peut nous apporter ? Parce que, qu'est-ce que le digital peut nous apporter ? Et c'est là qu'on a dit, bah tiens, pourquoi ne pas permettre, et effectivement, cet agriculteur qui va acheter ses équipements, il en a besoin, bah, de toute façon, de pouvoir l'acheter lui-même, directement sur une plateforme en ligne. Et aussi, comment permettre à ce fournisseur, ce fabricant d'équipement, qui a du mal à vendre ses équipements parce qu'ils ont tous été frappés, comme tout le monde, effectivement, par des restrictions de déplacement ou des annulations de salons, qui a du mal à avoir la visibilité et à vendre cet équipement, comment lui permettre, effectivement, de vendre cet équipement et puis de mettre en lumière sa capacité d'innover. Et c'est là qu'on fait effectivement notre rôle effectivement de catalyseur en permettant l'offre et la demande de se rencontrer. Et c'est autant bien pour tout le monde effectivement parce que en faisant rencontrer l'offre et la demande, en fait on est en train de simplifier la production de cette énergie. On est en train d'encourager la production de cette énergie. À titre d'exemple, pour partager avec en 2 ans, là on a pu accompagner 100 d'installations en France et puis en Suisse. En plus, voilà, il faut regarder la partie digitale, c'est important parce que du coup, ça nous a aussi permis de nous exporter assez facilement. Et là, actuellement, bah, on est en train de regarder aussi, bah, côté allemand, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut faire. En moins de 2 ans, c'est vrai que même dans mon BP au départ, ça y était pas.
Et donc cette digitalisation, elle a vraiment apporté quelque chose en termes de scalabilité finalement, qui n'était pas possible avec juste des fichiers Excel, etc.
Exactement. Et on se rend compte que la plupart, parce que déjà la plupart de nos fournisseurs, ils étaient étrangers. On s'est dit, bah tiens, si on achète une pompe en Allemagne pour la livrer à Brest, pourquoi ne pas l'acheter en Allemagne pour la livrer en Allemagne directement. C'est la même pompe exactement. Et puis voilà, on a dit bah tiens, bah on va se caler justement à ce niveau-là. C'est juste la traduction à faire de l'installation, la traduction de la marketplace à réaliser. Et là, donc la marketplace est en train d'être traduite en anglais, elle est en train d'être traduite en allemand, et puis bientôt elle sera aussi traduite en Italie. Là, ça nous permet effectivement d'adresser tout le marché européen en un coup, voir et puis commencer à se poser la question sur d'autres marchés ailleurs sur la planète. Sachant aussi que là, tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé de la partie méthanisation biogaz, mais l'idée aussi, c'est de devenir un acteur de référence sur le marché des énergies renouvelables. Par exemple, là, il y a l'hydrogène qui va certainement venir. Là, on parle bien d'hydrogène à chaque fois. Mais si je vous demande où est-ce que vous pouvez m'acheter un équipement d'hydrogène, vous allez me dire j'en sais rien. Voilà, vous allez me dire j'en sais rien. Justement, c'est qu'il y a effectivement ce point de rencontre entre l'offre et la demande qui existe sur le marché d'hydrogène, mais sur d'autres marchés aussi des énergies renouvelables qui sont en train de sortir. Bientôt, il y aura l'hydrogène, il y aura le CO2, il y aura effectivement tout type de marché où il y a quand même des maillons de la chaîne qui manquent actuellement, justement pour dire, bah tiens, on a de super ingénieurs qui savent innover, qui savent faire des choses, effectivement, qui sont vraiment balèzes. De l'autre côté, on a la demande, mais des fois, on a du mal, ces deux mondes, ils ont du mal à se croiser. Et nous, en tant que Magma Energy, c'est justement pouvoir faire que ces deux mondes puissent parler.
Ok, et outre l'aspect plateforme et digital, vous gérez aussi l'aspect logistique, j'imagine ?
Oui.
Et est-ce que tu peux m'en parler un peu plus de cet aspect logistique ?
Il y a la partie, donc, l'aspect logistique qu'on est en train de voir.
Hyper important.
Là aussi, l'autre contrainte aussi qu'on a aussi, c'est aussi les coûts des matières. Les coûts des matières et les disponibilités des matières. C'est vrai que là, on a surtout qu'il y a pas mal de composants qui contiennent des puces électroniques.
Ça ne cesse d'augmenter.
Il y a le cuivre qui augmente, il y a l'inox qui augmente. Il y a le transport, il y a des éléments qui viennent de Chine, effectivement, avec les coûts des conteneurs qui font qu'exploser. Et nous, on est là au milieu, effectivement, en train de gérer pour justement essayer d'atténuer ces impacts. Justement, en essayant de regrouper le maximum de besoins pour qu'effectivement, quand on commande un conteneur, effectivement, on puisse en commander plusieurs pour essayer de mutualiser les prix d'envoi. Et aussi, quand on livre plusieurs sites à la fois, essayer d'organiser des tournées, des rondes pour essayer d'optimiser cette partie logistique. Là, on est en train de réfléchir à d'autres solutions aussi de livraison, soit des plateformes de stockage pour avoir des produits de première urgence, parce qu'on sait qu'il y a 5 unités qui sont côte à côte pour dire, bah tiens, vous avez votre mini plateforme avec telle pièce. L'avantage, c'est que quand ils commandent chez nous, c'est que nous, on a toute l'historique, toute la data pour dire quand est-ce qu'ils ont commandé, qu'est-ce qu'ils commandent d'un particulier, ce qui nous permet derrière de pouvoir, même l'idée c'est de pouvoir anticiper leurs besoins. Pouvoir, avant même qu'ils sachent que la pompe va tomber en panne, nous la précommander déjà en Allemagne pour qu'elle soit déjà là. Donc ça c'est la partie data qui va nous permettre d'y arriver, d'anticiper ses besoins, voir des commandes régulières, des offres d'abonnement justement pour dire bah tiens, si vous commandez 1000 litres d'huile tous les ans, il y a même pas à recommander, juste nous on vous livre directement, vous n'avez juste qu'à dire stop, nous on arrête. Donc c'est ces éléments là qui vont nous permettre d'apporter plus de valeur aussi aux clients qui vont nous suivre à chaque fois.
Ok, est-ce que tu peux me résumer un peu les grandes étapes de Magma Energy? Il y a eu Plug and Start, la création de la société, la digitalisation. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette avancée depuis 2019 et les prémices du projet?
Ouais, exactement. Donc depuis 2019, même avant en fait, j'avais fait ma thèse, je l'avais fait sur Magma Energy.
Ah ok, génial.
C'était depuis 2017-2018. C'est là que j'avais commencé à dessiner les premières lignes, en disant tiens, ça serait bien de faire ça, de faire ça. De faire ces éléments-là pour dire bah tiens, quelle est ma compétence, mon expertise, effectivement c'était ce côté achat, côté énergie renouvelable, côté accompagnement des gens, accompagner des gens. Je disais bah tiens, comment je peux faire, comment je peux me placer, quel est l'endroit de la chaîne de valeur effectivement qui paraît pertinent pour moi. Donc ça c'est un travail qui avait été commencé 2017 2018 2019. C'était j'en ai fait une thèse une fois défendue, après derrière il y a eu Plug and Start. Plug and Start, c'était le premier concours auquel j'ai participé en tant que porteur de projet, parce que là, j'étais vraiment porteur de projet, je n'étais pas encore entrepreneur. Il y a eu Plug and Start, rencontre avec certains grands comptes, avec les gens qui m'ont challengé, qui m'ont dit, bah, tiens, ton projet, le projet, je l'ai retravaillé. Ça, c'était... j'ai retravaillé le projet en même temps que j'étais en train de faire les formalités pour quitter mon entreprise. 2019, je quitte mon entreprise. Mars 2020, je crée Magma Energy. Et puis, on s'est lancé là-dessus. Quand on a lancé aussi Magma Energy, au départ, au fait, c'est qu'il y a eu aussi un autre ajustement aussi que je vais signaler. C'est qu'au départ aussi, on était focus aussi surtout sur les nouvelles installations. Les nouvelles installations, donc on avait dit, bah tiens, on va regarder les équipements qui sont les plus chers sur une installation pour essayer de les acheter en groupé. Pour partager un peu les ordres de grandeur à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, bah c'est une installation, c'est entre 5 et 6 millions. Et en disant, bah tiens, il y a telle brique qui coûte 1 million, on peut mutualiser entre plusieurs installations. Ok, ça on l'a fait. Jusqu'à maintenant, on en a fait une douzaine pour les nouvelles installations. Mais le problème, c'est qu'au fait, pour sortir une installation, il fallait 1 an, voire 2 ans. Même les premiers projets qu'on avait initiés, donc, que j'avais repérés en 2019, bah, le premier coup de pelle, c'était il y a 3 semaines. Donc imagine donc toute la partie BFR derrière, toute la partie trésorerie qu'il va falloir maintenir. C'est très important. Ouais. Donc du coup c'était très important. Et c'est là aussi que j'ai pu m'adapter. Je me suis dit là je m'adapte. Là il y a les nouvelles installations. En plus il y en avait un peu moins parce que avec les restrictions, ce genre de choses, il y a eu des projets qui ont été annulés, d'autres projets qui ont été décalés. Donc ça, c'était la première complexité que j'ai rencontrée, qui m'a permis aussi, qui m'a ouvert les yeux en disant, bah tiens Thierry, là, tu es en train de cibler les nouvelles installations, mais regarde à côté de toi, en France, actuellement, il y a 1200 installations qui tournent, qui sont comme ça. Il y a 1200 installations qui produisent du biogaz en France. Et ces installations, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de toutes les pièces de rechange, ils ont besoin de maintenance, ils ont besoin de l'huile, ils ont besoin de tout type de consommables qu'on a. Et la plupart du temps, ils n'ont personne pour leur proposer. En général, sur une installation, en fait, il y a 200 marques, 200 références. Et les gens, donc, ça veut dire qu'il va appeler, bah tiens, je veux le devis pour la pompe, tiens, je veux le devis pour ça. Est-ce que vous pouvez faire un devis pour ça? Ce qui représente une perte de temps phénoménale. Une perte de temps phénoménale. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi ne pas regarder aussi toutes ces installations? Et du coup, je suis allé chercher ce marché qui tourne. En plus, c'est ce marché qui m'a permis d'adresser même les centaines, 100 installations actuellement et qui ont besoin de récurrents. C'est des paniers moyens d'à peu près 3 000 euros, mais qui reviennent tous les 2 ou 3 mois. Donc c'est du récurrent. Il faut viser vraiment la partie récurrence. C'est du récurrent. Et puis ça permet de fidéliser le client. Et puis ça nous donne aussi le temps d'avoir suffisamment d'informations. Parce que je te parlais de la data tout à l'heure pour voir comment on peut améliorer ce service. comment on peut améliorer le service qu'on apporte à son client. Donc ça, c'est pas mal, c'est plutôt bien, ça nous permet aussi d'avoir une renommée et aussi d'avoir un accès à l'international assez facilement.
Ok, et super, super intéressant un peu toutes les grandes étapes de ton aventure.
Voilà.
Pour conclure un peu sur Magma Energy, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur la société et quels sont les objectifs futurs pour les prochaines semaines, les prochains mois?
Donc, quelques chiffres, je vous précise aussi qu'on a une société à mission, c'est important.
Très important.
Voilà, voilà, on est une société à mission. Notre mission, c'est de promouvoir l'usage et la production des énergies renouvelables. Actuellement, en termes de chiffres, donc on a pu accompagner des installations qui permettent à peu près de produire un gaz renouvelable pour 55 000 ménages. C'est équivalent à peu près à 300 bus qui roulent tout le temps en biogaz tous les ans.
C'est énorme.
Donc voilà, ce qui est énorme, c'est à peu près 9 000 tonnes de CO2 qu'on évite tous les ans. Ça, c'est les chiffres côté RSE. Côté installation, c'est que les volumes d'affaires qu'on a pu traiter en négociation pour les nouveaux projets, on est à peu près dans les 13 millions. On est dans les 13 millions et puis il y a un chiffre d'affaires qui tourne aussi sur la partie consommable, qui est sur la partie récurrente.
Ok, et tes objectifs futurs du coup ?
Les objectifs futurs, donc ce que je disais, c'est que là, l'étape actuellement, donc on vient de lancer la marketplace. Là, on est en train de faire une levée de fonds. On est en train de faire la levée de fonds pour justement consolider notre position en France et puis se développer en Allemagne. Se développer en Allemagne, c'est-à-dire aller ouvrir effectivement, on est en train d'ouvrir une filiale en Allemagne, justement pour adresser le marché allemand. Tout à l'heure, je parlais d'un marché français qui est à peu près à 1200 installations, mais en Allemagne, vous multipliez ce chiffre par 10. On est dans les 15 000. Des installations qui ont eu les mêmes besoins que les installations d'ici. Donc c'est un marché qui est assez
très important,
qui est assez très important et qui a le même besoin. Et pour le moment, donc on est le seul acteur qui va pouvoir proposer ça. Et je pense que le digital nous permettra d'aller encore plus loin.
On passe à la partie bilan de ton aventure avec deux questions. Quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale?
J'allais dire, c'est tous les jours. Non, il faut se dire qu'en tant qu'entrepreneur, en fait, on a des hauts et des bas. En général, ce que je dis, c'est qu'il y a 24 heures dans une journée et puis des hauts et des bas, vous en avez 24. Des contrats qui sont annulés, des commandes qui sont annulées, ce genre de choses, d'autres qui sont gagnées de l'autre côté. En tant qu'entrepreneur, ce qu'il faut, c'est que vraiment, il faut profiter de chaque instant, de chaque victoire, aussi minime que soit-elle, mais qui permet d'encourager puis de passer à la victoire suivante. Les moments les plus difficiles que j'ai connus, effectivement, c'était ce que je disais tout à l'heure, parce que j'ai du coup, quand on avait focusé sur les premiers projets, donc ça nous a fait une première année effectivement sans facturation. Donc du coup, parce que les projets ils étaient pas encore démarrés, alors que nous on avait dit tiens, on les a sécurisés. Sauf que tant qu'ils n'ont pas encore commencé la construction, donc vous n'êtes pas payé. Donc il y a eu une première année difficile. Donc côté trésorerie, c'était pas la joie. D'autres moments, non, je dirais pas que c'est difficile, je dirais que c'est juste la vie de tous les jours, les échanges avec les différents financiers, les différents investisseurs, mais ça c'est la vie,
oui,
même, c'est la vie même de l'entreprise.
Ok, et la deuxième, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui?
Donc je suis fier effectivement quand je me dis qu'on a pu, en si peu de temps, on a pu accompagner une centaine d'installations. Les 100 installations, moi dans mon BP initial, j'étais en 5 ans à peu près. Là, en moins de 2 ans, j'allais dire, moins de 2 ans, c'est plutôt même moins, en un an, parce que la première année, on les avait pas adressés. Donc ça, c'est important. Ce que je suis fier aussi, c'est de pouvoir aussi, maintenant, on a des in-calls, des appels entrants, des gens qu'on croise sur les salons, qui disent, Magma Energy, ou des gens, ou bien qui nous appellent directement, qu'on n'a jamais vu, ni d'Adam, ni d'Ève, qui nous appellent parce qu'ils disent, il y a mon voisin qui m'a parlé de vous, donc c'est intéressant, j'aimerais bien travailler avec vous. Ça fait plaisir. L'autre élément aussi, c'est que voilà, que ce qui a marqué aussi ma vie d'entrepreneuriat, c'était la première embauche aussi. Là, oui, parce que voilà, actuellement on est 7, mais si ça se passe bien, effectivement, l'idée c'est de passer une cinquantaine de personnes d'ici quelques années. Donc la première embauche aussi, c'est quand on fait toute la paperasse, tout ce qui va avec. C'est un grand moment aussi pour tout entrepreneur. Et, la première fiche de paye, bien négociation
de contrat. Voilà, et puis voilà, quand on arrive aussi à se payer aussi, c'est un premier moment en disant bah tiens, bah là je vide ce que je fais quoi. Ouais, ouais. C'est une vraie.
Un accomplissement.
Ouais, c'est l'accomplissement et ça, c'est une vraie fierté.
Ok.
Exactement. Après, ce que je dirais aussi, peut-être je vais anticiper sur ta question. Au fait, ce que je conseillerais aux entrepreneurs, c'est vraiment de se faire accompagner. Parce que la pire crainte qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, c'est de dire bah, je ne parle pas de mon idée parce que j'ai peur qu'on me pique mon idée. Ça, c'est la pire connerie qu'on peut faire.
Surtout que l'idée ne vaut rien sans exécution.
Voilà, et exactement. On dit, bah tiens, mais même si ton idée, effectivement, est géniale, mais l'autre personne ne pourra pas l'exécuter comme toi, tu le feras. Quoi. Donc, il a plus intérêt plutôt à investir dans toi pour que tu fasses ton idée, pour que vous puissiez aller plus loin. Donc, ça, c'est vraiment la pire chose qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est en s'ouvrant vers les autres qu'on améliore aussi son idée. Parce que quand des fois on peut se faire des films en disant bah tiens moi j'aimerais bien faire un truc comme ça qui fait ça qui communique avec ça qui travaille avec ça, mais finalement quand les autres vous questionnent tu dis finalement c'est con ouais. Ou bien voilà c'est con, pourquoi je ferais pas plutôt ça. Donc en fait c'est ces échanges qui permettent de mûrir son idée. C'est là qu'on s'enrichit et c'est là qu'on grandit en tant qu'entrepreneur. C'est en partageant son idée, en partageant son retour d'expérience avec soit ses pairs, soit ses conseillers, soit ce genre de choses. Là, c'était bien. Et puis, l'autre élément aussi, par exemple, chez nous à Troyes, effectivement, bah, j'ai participé pour demander faire des dossiers de concours, ce genre de choses. C'est pas mal aussi. Je le conseille de s'inscrire à des concours, de faire des dossiers de façon de demande de prêt d'honneur à gauche à droite avec les différentes institutions, les concours de demande d'incubation. En fait, des fois, même si des fois on a l'impression qu'ils nous posent tout le temps les mêmes questions, ou bien que c'est chronophage, hein, parce que personne n'aime vraiment faire la paperasse, mais derrière ça nous re-questionne, ça nous dit bah, tiens, ça fait deux fois qu'on me repose la question, ça fait deux fois que comment se structure ma chaîne logistique, quelle est ma proposition de valeur. Ça veut dire que si ça fait deux fois qu'on me pose la question, ça veut dire qu'elle n'est pas si claire que ça. Et donc ça me permet de la retravailler. Donc ça aussi c'est un plus, mais ça va vraiment dans le sens de je suis entrepreneur, je suis ouvert aux autres, et ça c'est important.
Et c'est vrai que, et en plus en cas de victoire, ça apporte de la légitimité pour le projet.
Exactement.
De remporter des concours, des prix, etc. Puis ça apporte aussi de la visibilité.
Oui, exactement. Oui.
Qui peut générer du coup du business. Donc,
Oui, t'as tout à fait raison, parce que tu sais, il y a des collègues à moi, des amis aussi, qui disaient concours, il n'y a pas de chèque derrière. Et voilà, quel est le prix à gagner? Et voilà, en général, c'est ça la première question qu'ils posent. Et ce qu'il faut se dire, effectivement, c'est d'autres récompenses, notamment, effectivement, ce que tu viens de dire, la partie visibilité, la partie retour d'expérience. Je monte en grade parce qu'effectivement, mon projet a été confronté par ça. Peut-être que le projet, il n'a pas été pris. Hein. Mais derrière, quand même, je sais pourquoi il n'a pas été pris. Donc, ça me permet derrière de m'améliorer pour le coup d'après. Et aussi, c'est son réseau pour dire, bah, tiens, il y a tel projet, il est passé là-bas. Je connais telle personne, il faisait partie de mon jury. Ce genre de choses pour dire, bah, tiens, je peux l'interpeller sur LinkedIn pour dire, bah, tiens, la dernière fois, j'ai apprécié les échanges qu'on avait eus. Et d'ailleurs, vous m'avez posé cette question. Est-ce que vous pouvez m'en dire davantage? Et c'est cette personne aussi qui va se sentir valorisée, qui va vous aider d'après. Et ça, c'est important. Et puis, j'allais dire, bah, après, faut pas avoir peur d'y aller, quoi.
C'est clair.
Non, mais parce que je dis ça parce que, au fait, la plupart du temps aussi, ce que j'aimerais bien partager avec les entrepreneurs ou bien avec d'autres porteurs de projets, bah, j'avais un projet, mais je suis sûr que ici, même dans la salle, ou bien ceux qui vont nous écouter, combien de soirées on a fait en disant bah tiens, ça serait intéressant, tiens, ça te dirait pas de faire un truc comme ça, qui fait comme ça, une appli qui fait ça, qui envoie des mails, qui envoie ça, ces notifications. Et dit bah tiens, on en parle, oui, puis sauf que le lendemain matin on dit oh, non, c'est trop compliqué, chacun part dans sa voie. Chacun part dans sa voie, il y a le quotidien qui reprend le dessus. En fait, les idées, on en a plein, tout le monde a des idées, mais la capacité, ce qu'on développe, on doit développer de faire le premier pas, de dire, et justement là je reviens effectivement à la partie plug and start pour dire en fait tu viens avec ton idée, c'est ton idée de soirée, peut-être aboutie à plusieurs niveaux. Mais derrière, nous, on veut transformer cette idée en projet, un projet viable et qui va te permettre non seulement de vivre, mais de faire vivre aussi des gens. Et c'est effectivement, il va falloir qu'on, il faut qu'on arrive effectivement à switcher. Parce que des idées, j'en ai plein. Bah, pour dire, partager l'expérience. À un certain moment, on avait des idées. C'était quand on finissait l'école pour faire une plateforme de streaming en 2004. Une plateforme de streaming qu'on disait, bah tiens, ça serait bien de faire une plateforme de streaming. À l'époque, même bon, on avait démarré même en 2001. Il y avait que Canal+. Mais même c'était même pas en streaming parce que les réseaux, c'était les réseaux 56K. Cette plateforme de streaming, à un certain moment, on a dit, bah tiens, non, c'est trop compliqué. On avait dit pourquoi ne pas mettre en ligne des vidéos, puis les gens ils paieraient un abonnement pour venir le faire, ou bien même c'était gratuit parce qu'on pourra vivre avec les pubs, ce genre de choses. On a réfléchi sur cette idée, mais on l'a pas fait. Bah, sauf que quelques années après, il y a Netflix qui est arrivé.
Ce sont les idées meurent, les idées meurent très vite.
Et voilà, exactement. Il y a Netflix, qui est arrivé, et puis avec des potes à moi, j'ai dit mais merde, voilà, c'est exactement ça, parce que nous on avait abandonné, c'est trop compliqué avec les serveurs et compagnie. Donc il faut pas avoir peur d'aller plus loin, quoi.
Ouais, exactement. Et ben on va pouvoir passer à l'avant-dernière partie de notre échange sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Alors même si évidemment on a abordé pas mal de sujets qui concernent l'entrepreneuriat et le mindset notamment. La première question, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure Magma Energy?
C'est pas une rencontre, c'est qu'il y a plusieurs rencontres en fait. C'est, je dirais,
souvent
pas
le cas.
Ouais, voilà, exactement. C'est plusieurs rencontres des gens qui, les gens qui m'ont aidé, même avant pendant l'élaboration du projet, des anciens collègues côté GRDF, où on travaillait un peu sur le BP, sur ce genre de choses. Ça m'a aidé beaucoup, et puis ça continue à m'aider aussi. Les rencontres aussi, c'est des rencontres, et les rencontres à la Technopole, l'équipe qui m'a aidé à
la Technopole de l'Aube.
À la Technopole de l'Aube en Champagne, l'équipe qui m'a aidé et qui m'aide toujours au quotidien, effectivement, à avancer, à répondre à certaines questions. Et l'idée aussi, c'est que, voilà, t'es comme dans un cocon, effectivement, où il te pousse vraiment. Je conseillerais à n'importe quel entrepreneur de venir, effectivement, voir. Donc, ce sont ces rencontres, effectivement, qui ont vraiment marqué, essentiellement. Et puis après, les rencontres avec les différents salariés aussi que j'ai, effectivement. Ça, c'est important parce que on fait rien tout seul. Là, on parle de 100 unités qu'on a accompagnées, mais il n'y a pas que moi. Il y a toute une équipe derrière qui travaille d'arrache-pied pour y arriver. Et il faut aussi préciser son entourage familial. Ouais. Faut que je le précise aussi aux entrepreneurs, parce qu'au fait, c'est un projet que vous allez entreprendre, que vous allez lancer. En fait, c'est pas que votre projet, quoi. Ouais. Vous embarquez tout le monde, les gens qui n'ont rien demandé, dans votre projet. Donc, il faut que cet entourage aussi familial soit avec vous, ou bien soit de votre côté, vous arrivez à les convaincre, à les embarquer. Il faut voir aussi ce risque aussi qu'il y a derrière. Effectivement, bah, moi j'ai eu la chance effectivement d'avoir une femme qui comprend bien, qui m'a soutenu, des enfants aussi qui m'ont soutenu, mais ça c'est important parce que ça peut d'un moment à l'autre, ça peut avoir un impact sur le projet de l'entrepreneuriat. Et ce qui est bien aussi, c'est que je reviens peut-être sur la question d'avant ou la question d'après. Au fait, c'est que ces rencontres aussi, qu'est-ce que j'en ai fait? Parce que dans mon cas, au fait, je suis associé unique. Moi, donc du coup, au fait, j'ai mis en place un advisory board. Ça aussi, ça peut intéresser effectivement aux entrepreneurs qui nous écoutent. En gros, ça m'a permis derrière de, c'est des gens, justement, en parlant de ces rencontres, j'ai pensé à eux, des gens que j'ai appréciés pendant tout le parcours d'entrepreneuriat, de réflexion d'ailleurs, qui m'ont aidé, qui m'ont donné des conseils. Il y en a 5, effectivement, avec lesquels je continue à échanger tous les 3 mois. C'est mon advisory board qui me permet derrière de challenger mes choix, mes décisions stratégiques en disant bah tiens ça j'aimerais faire ça. Il me dit bah, il peut me dire bah tiens pourquoi tu aimerais faire ça, ce genre de choses. Ça c'est de se faire accompagner, c'est très important.
Ouais.
J'allais dire avec bah si on est seul on est rapide, mais à plusieurs, on va plus loin, quoi.
Exactement. Je suis très très aligné avec ça. Pour conclure cette partie, est-ce que tu peux me citer une personne ou un sujet qui t'inspire particulièrement aujourd'hui?
Un sujet qui...
Ça peut être une personne, un entrepreneur, ça peut être un sujet de prédilection, tu vois, c'est... Quelles sont un peu ta source d'inspiration
du
moment?
D'inspiration, j'allais dire ma source d'inspiration, j'aime bien Elon Musk, j'aime bien. Ouais, exactement, parce que même ce que je dis, c'est que... En fait, sky is the limit, hein, c'est la signature. Je me dis que les barrières qu'on a, c'est uniquement les barrières qu'on s'impose. faut pas dire ça, je suis pas capable de le faire, je peux pas le faire. Non, c'est parce que vous dites que vous n'êtes pas capable, mais les autres, ils savent bien que vous êtes capable de le faire. Et c'est-à-dire aussi, c'est que, en tant qu'entrepreneur, c'est que si vous êtes le seul, le sachant du projet, n'ayez pas le trac de défendre votre projet parce que personne ne le connaît mieux que vous. Donc ça, c'est bien, c'est votre projet, habitez-le. Et effectivement, ça, c'est important. Et ne vous mettez pas les barrières. Et puis, sortez des sentiers battus, regardez ce qui se passe de l'autre côté, même si ce n'est pas dans le même secteur. Même si ce n'est pas dans les mêmes secteurs. J'aime bien discuter avec des gens qui sont dans les secteurs dans l'hôtellerie. J'aime bien discuter avec les gens qui sont dans l'aéronautique. Des éléments qui n'ont peut-être pas à voir à grand-chose, bien dans le secteur alimentaire, des éléments qui n'ont rien à voir avec la partie énergie renouvelable que je représente actuellement. Et ces gens-là, ces gens-là, au fait, qui sont mes sources d'inspiration, quoi, qui m'apportent plusieurs choses. Parce qu'on se dit que, au fait, la plupart des éléments qui existent, ils ont été, qu'on peut utiliser, ils ont déjà été inventés actuellement. Mais il faut les trouver où ils sont.
Ouais.
Ouais.
Et puis effectivement, la diversité des projets fait quand même qu'il y a toujours des problématiques communes,
oui,
et des sujets communs entre entrepreneurs. Et effectivement, même si on a d'un côté une boîte dans le développement durable et une boîte dans l'aéronautique, etc., potentiellement, il y aura des problématiques communes.
Oui, exactement. Quoi qu'il arrive, vous allez trouver des points de convergence à un certain moment. Donc, il faut que vous puissiez, en parler, vous puissiez échanger. Donc, ça c'est important. Et c'est vraiment sky is the limit, quoi.
Exactement.
Allez-y, foncez.
On passe à la dernière partie de notre échange avec trois petites questions. La première, c'est: y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée ?
Oula. Ouais, est-ce que je suis content ?
Est-ce que t'es content ?
Oh oui, je suis très content de faire ce que je suis en train de faire. Voilà.
Super, bah, c'est important.
Voilà, exactement. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est important parce que j'allais dire dans la vie d'entrepreneur aussi, c'est qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des vrais moments de solitude. Il faut être solide. Il y a des vrais moments de solitude, il faut être solide. Derrière, on compte pas ses heures. Il faut savoir ce qu'on est en train de faire. On compte pas ses heures. Là, on parle des 35 heures, tout ce genre de choses. Vous allez travailler samedi et dimanche. De toute façon, voilà. Il faut que vous soyez prêt à ça. Et puis, il faut que vous soyez vraiment heureux, vraiment, de faire ce que vous êtes en train de faire, quoi.
Ouais. Et bien,
en gros, je suis content parce que j'allais dire, quand je fais mon boulot, effectivement, c'est que c'est pas un boulot, quoi. C'est une passion. Voilà, exactement. J'allais dire, celui qui fait la musique, lui compte pas ses heures. C'est un peu ça, effectivement.
Ouais, c'est important d'être épanoui dans.
Oui, exactement.
Fait, surtout quand on est entrepreneur.
Exactement, parce que de toute façon, si vous n'êtes pas épanoui, vous n'allez pas tenir. Ouais. Ça, c'est sûr. Au moindre coup de barre, c'est mort.
Ma deuxième question, c'est: as-tu un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode ?
Il y a Akal, Aurélie de chez Akal, qui font des équipements pour atténuer la santé des animaux. Ça, c'est intéressant.
Okay. Ah oui, sujet intéressant.
C'est une entreprise en plus qui est incubé à la Technopole de l'Aube, ils sont à côté. Ce qui est intéressant aussi avec d'être incubé, c'est très intéressant. En fait, c'est cette partie d'échange où justement il y a des entreprises qui n'ont rien à voir, mais avec lesquelles on est parce que par exemple il y a eux, ils sont dans les animaux, dans les équipements pour les animaux. À côté, il y a des gars qui font les impressions 3D. À côté, il y a des gars qui font des drones pour les éoliennes. Ça aussi ça sera intéressant de les voir, effectivement, de supervision. Ça aussi, je trouve que c'est innovant ce qu'ils sont en train de faire. Et à côté, au fait, c'est cet écosystème qui va te pousser derrière vers le haut. Et c'est avec ces gens que tu vas déjeuner à midi, c'est avec ces gens que tu vas prendre un verre après le boulot, qui n'ont rien à voir, mais qui ont les mêmes problématiques, qui vont dire, bah tiens, je vais dire même la comptabilité, tiens, c'est qui ton comptable, tiens, tu passes un coup de fil à telle personne, tiens, c'est qui ton banquier, tiens, tu passes un coup de fil à telle personne, c'est qui te fait les livraisons, bah tiens, je connais ça, bah la partie communication qui le fait, la partie community management. Ces sujets qu'on arrive à partager et avancer assez facilement.
Et ma dernière question, c'est quoi pour toi un entrepreneur ?
Un entrepreneur, ça va être un visionnaire. C'est un visionnaire en tant qu'entrepreneur. Donc, vous avez, il faut être visionnaire et puis il faut être, j'allais dire, le couteau suisse, quoi. parce que effectivement, bah, d'un côté, il faudra que vous ayez les qualités effectivement en ressources humaines, il faudra que vous ayez les qualités pour gérer vos équipes, que vous ayez des qualités en finance, que des qualités pour gérer vos finances et vos comptabilités, que vous ayez des qualités opérationnelles pour faire ce que vous êtes en train de faire actuellement, et aussi les qualités aussi de pouvoir vous projeter plus tard, et puis la partie innovation. Donc c'est un visionnaire aussi, et puis c'est de savoir bien s'entourer. J'ai identifié toutes ces qualités, effectivement, de dire, je connais personne qui a Bac plus 6 dans tous ces domaines, et cette personne n'existe pas encore. Mais effectivement, c'est d'où le besoin de pouvoir s'entourer aussi avec des meilleures personnes qui peuvent vous accompagner, vous tirer vers le haut.
Ouais, ça c'est quelque chose qui revient fréquemment, qui est, je pense, une des choses les plus importantes dans l'entrepreneuriat, c'est de bien s'entourer.
Ouais.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, de bien s'entourer, parce que ça concerne le sujet d'avant. Aussi, c'est s'entourer, au fait, c'est que quand on est seul aussi, on passe à côté de quelque chose. Par exemple, actuellement, il y a eu pas mal de PGE, de plans de subvention, des aides qui sont attribuées aux créateurs d'entreprises, des parcours d'intégration, tout ce genre de choses. En fait, si vous restez dans votre coin, vous allez passer à côté de tout ça. En fait, il y a des aides qui sont là pour justement pousser tous les entrepreneurs vers le haut. Justement, il faut aller les chercher, ces aides. Pour aller les chercher seul dans son garage, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment sortir, d'être accompagné, voir des structures qui accompagnent les entrepreneurs. Il y a les CCI partout. Voilà, il y a Plug and Start, ça en fait partie. Toutes ces structures qui vont accompagner les entrepreneurs, il faut aller les chercher là où ils sont.
Ok, bah écoute, ce seront les mots de la fin. Avant de conclure notre échange, un petit reminder sur Plug and Start, sur cette 20e édition anniversaire qui a lieu du 29 juin au 1er juillet prochain, et sur laquelle vous pouvez candidater jusqu'au 20 mai. Pour avoir l'espoir de participer à cet événement et de créer, de propulser son entreprise, son projet, justement à Sky is the limit.
Ouais, Sky is the limit, ouais, c'est important.
Merci beaucoup Thierry, et puis on se retrouve bientôt sur Serial Entrepreneur.